le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus aujourd'hui pour cette émission spéciale enregistrée lors de l'Assemblée du désert. Alors, l'Assemblée du désert, c'est chaque année 15 000 protestants qui se retrouvent sous les châtaigniers de Mialet dans le Gard. Un rassemblement qui rappelle l'histoire de la persécution des protestants, des cultes clandestins et qui célèbre donc la liberté religieuse d'aujourd'hui. Cette année, et nous en avons déjà parlé sur France Culture, sur le service protestant, c'est le 500e anniversaire de la naissance de Théodore de Bèze, grand réformateur protestant. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Millet, professeur de littérature française à la Sorbonne. Bonjour.
Bonjour.
À ses côtés, Pierre-Olivier Leschaud, professeur d'histoire moderne à l'Institut protestant de théologie à Paris. Pierre-Olivier Leschaud, bonjour.
Bonjour.
Alors, en introduction, j'aimerais vous poser la question à vous, Olivier Millet. Est-ce que vous pourriez nous brosser très rapidement, pour ceux qui ne sont pas du tout au point sur la question, ce qu'est la réforme protestante du XVIe siècle?
Oui. Alors, je vais justement adopter le point de vue de Théodore de Bèze sur le sujet. Il pense, il écrit, que l'humanisme de la Renaissance, c'est-à-dire le retour à la connaissance exacte des langues hébraïques, grecques et latines, a permis un retour aux Écritures saintes, la Bible étant écrite en hébreu et en grec pour le Nouveau Testament, qui a permis, à son tour, une réforme de l'Église.
Pierre-Olivier Leschaud, qu'est-ce que la réforme protestante du XVIe siècle ?
La grande découverte des réformateurs, Luther en particulier, mais aussi Calvin et Théodore de Bèze dans cette ligne-là, hein, on peut le dire, c'est le fait que le salut ne se fait pas par l'homme, mais que c'est Dieu qui fait le salut de l'homme, ce qui est extrêmement libérateur dans le contexte du temps, bien sûr, pour toute une série de gens qui sont inquiets pour leur salut, d'apprendre que finalement ils n'ont rien à faire parce que c'est Dieu qui fait le salut des hommes, qui leur offre son salut, qui s'approche pour leur offrir leur salut. Mais en même temps, ça ouvre toute une série de questions, bien sûr.
Alors, je vous propose de revenir à Théodore de Bèze. En quelques mots, et je vous lance la question à tous les deux, vous pouvez vous compléter. Quel a été son parcours ?
Alors, on commence peut-être par le littéraire, justement, parce que Bèze n'est pas un théologien de formation, pas plus que Calvin, d'ailleurs.
Plus que Calvin.
Comme Calvin, c'est quelqu'un qui fait des études de droit à Orléans et à Bourges. Et le droit, à cette époque, est justement connaît les transformations apportées par l'humanisme international.
Quand vous dites humanisme,
oui,
qu'est-ce que vous dites ?
Connaissance, dans ce cas-là, connaissance exacte des langues grecques que le Moyen-Âge fréquente peu, mais aussi de la langue latine classique ou ancienne. Connaissance au sens scientifique, on dirait aujourd'hui, qui permet de reprendre le droit romain avec un regard complètement neuf. Et donc l'étude du droit dans la perspective humaniste se confond largement avec l'humanisme, parce que c'est un corpus, le droit romain, le droit civil, extrêmement important, et pour la langue latine, et pour la culture occidentale.
Donc Théodore de Bèze a fait du droit, formation de juriste, formation donc de littéraire.
Alors, voilà, c'est-à-dire que les juristes à cette époque, à cause de ce phénomène humaniste dans les études de droit, sont très souvent, ce que nous appelons des littéraires, ils écrivent très souvent de la poésie. Voilà. Et, y compris quand ensuite il pratique comme avocat, comme magistrat, pendant un siècle de 1530 à 1630, sur quelques centaines de poètes qu'il y a en France, plus de la moitié sont des juristes.
Pierre-Olivier Leschaud, votre façon de présenter le parcours et la personne de Théodore de Bèze ?
Alors Théodore de Bèze, il est né à Vézelay, donc en Bourgogne. Hein. On peut toujours y voir sa maison d'ailleurs. Donc il est fils d'un notable du lieu et il est né en 1519, ce qui fait qu'il a 10 ans de moins que Jean Calvin. Il est de la même année que l'amiral de Coligny, que Catherine de Médicis. Enfin, c'est un très grand millésime, 1519.
La génération après Luther, au niveau de la
réforme. Une et demie, je dirais, oui, une et demie. Après la formation en droit et l'aspect littéraire de son œuvre, ce qui est bien sûr déterminant, c'est son passage à la réforme, qui est un passage qui se fait jamais en un jour, hein, bien évidemment, c'est une progression. Il est promis en tout cas un bel avenir, hein, littéraire, une belle carrière aussi de juriste, dans un parlement, enfin, et tout à coup, ben, il quitte tout ça. En raison de ses convictions religieuses, pour se retrouver en Suisse, à Lausanne. Il abandonne tout, si ce n'est son épouse, qui le suit, bien sûr. Et là, il va rencontrer un réformateur suisse qui compte beaucoup, qui est Pierre Viret, qui va reconnaître ses extraordinaires qualités. Et très rapidement, Théodore de Bèze va être nommé professeur de grec dans la toute jeune académie de Lausanne, où il entame une carrière, cette fois, qui n'est pas encore une carrière de théologien, mais enfin, disons, il s'oriente sur cette voie-là.
Alors revenons maintenant, Olivier Millet, avec vous sur Théodore de Bèze, humaniste, littéraire. Pourquoi est-ce qu'on souligne tant ce côté littéraire chez Théodore de Bèze? Qu'est-ce qu'il avait de particulier là-dessus? Qu'est-ce qu'il a apporté de particulier?
Alors, il y a un lien, on l'a vu, entre sa formation humaniste et littéraire, et c'est la théologie. Le lien, c'est le texte, l'étude du grec. Théodore de Bèze est un très grand spécialiste de la langue grecque. Et comme théologien, son plus grand apport, peut-être, c'est son commentaire du Nouveau Testament, en grec, enfin, sur le texte grec, c'est en latin. Il y a un lien entre sa pratique théologique et sa formation humaniste, la maîtrise parfaite de la langue grecque, et son édition du Nouveau Testament. Alors, comme littéraire au sens plus étroit, il a commencé comme poète latin, car dans ces milieux, c'est surtout la langue latine que les humanistes utilisent pour créer de nouvelles œuvres poétiques. Mais très vite, en France, à partir de 1540-1550, ces mêmes juristes passent à la langue française. Volontiers, c'est le milieu de la Pléiade notamment, même si Ronsard et Du Bellay ne sont pas, eux, des juristes. Mais autour d'eux, ce sont des juristes, les autres poètes. Et Bèze illustre le même mouvement, c'est-à-dire qu'il va vers la langue française, alors qu'il avait une culture poétique surtout latine, c'est son premier recueil de poésie, et il va vers la langue française par une pièce de théâtre, l'Abraham sacrifiant, qu'il compose justement à Lausanne, quand il est à Lausanne en 1550.
Une de ses premières œuvres en français.
En français. Et c'est même la première pièce française qui porte le titre de tragédie. Donc il introduit en quelque sorte, au moins par le titre, mais en partie par le genre aussi, ce type de pièce est typiquement humaniste. Hein. Au Moyen-Âge, il n'y a pas de tragédie ni de comédie au Moyen-Âge. Hein. Il y a beaucoup de théâtre, mais pas de tragédie et pas de comédie. C'est une tragédie biblique. Et d'autre part, à peu près à la même année, Calvin lui demande d'achever la mise en français sous forme poétique pour le chant par les fidèles des psaumes de la Bible, mise en écriture poétique sous forme de couplets, de strophes, comme on dit, que Clément Marot avait commencé. Et c'est Bèze Marot est mort, et c'est Bèze qui est chargé d'achever l'œuvre. Il va mettre une dizaine d'années et va composer 101 psaumes.
En quoi c'est important et qu'est-ce que ça veut dire une traduction critique du Nouveau
Testament?
Une édition
critique. Déjà, c'est une nouveauté au XVIe siècle. C'est lié à tout ce qu'on a dit à propos de l'humanisme, du retour au texte dans leur langue originale, et aussi à une découverte qui est celle d'Erasme, qui est le grand humaniste du XVIe siècle, qui est l'existence pour le Nouveau Testament de plusieurs manuscrits et donc de plusieurs version au fond du même texte grec, bien évidemment, de cette époque-là. Et alors, la question qui se pose au début du XVIe siècle, c'est au fond comment retrouver le texte d'origine du Nouveau Testament. Et le choix que fait Erasme, c'est d'utiliser sa raison, Hein, à certains moments, il lui arrive, à partir des manuscrits dont il dispose, de reconstituer un texte hypothétique, mais qui n'existe pas. On parlerait aujourd'hui d'une chimère. C'est ce que font toujours aujourd'hui les critiques du texte du Nouveau Testament en grec. Et donc, ce travail-là d'étude et d'établissement du texte du Nouveau Testament qu'on estime le plus près de l'original, eh ben, il va se perpétuer, parce que la réforme reprend ça à son compte. Luther, quand il fait ses commentaires, il utilise le Nouveau Testament d'Erasme. Et donc, on va avoir ce travail-là aussi au sein de la réforme de langue française, et c'est à Théodore de Besse que ce travail est confié dès les années 1550.
Donc, pour résumer, Théodore de Besse va reprendre le texte, la langue originale, à partir de plusieurs manuscrits en grec. Il fait une édition en latin, en mettant des notes savantes sur ses choix,
voilà.
Ce qui permettra à des pasteurs ou à des enseignants
de travailler ensuite
à partir du latin qui est plus accessible.
En langue originale, et parce qu'il y a à partir de je ne sais plus laquelle de ces éditions, il y a aussi le texte grec, puis la traduction qu'il livre au public. Et il faut savoir que Théodore de Bèze a contribué aussi encore, je dirais même pour nous aujourd'hui, à l'étude de ces manuscrits, puisqu'il a sauvé le fameux Codex Bézé, qui est donc un texte qui se trouve dans une abbaye qui brûle, et donc il le sauve et il va l'offrir plusieurs années après, dans les années 80 je crois, à l'université de Cambridge. C'est un manuscrit du 4e siècle que l'on utilise encore aujourd'hui dans l'établissement du texte grec, et ce texte porte le nom de Théodore de Bèze, c'est le fameux Codex Bézae.
On avait le texte biblique dans quelle traduction, et c'était quel type de traduction à l'époque ?
Alors, le texte biblique que l'on utilisait le plus facilement au Moyen-Âge, ce sont des traductions latines. Il y a la Vulgate, bien sûr, mais il y en a d'autres en circulation. Il y a une suprématie, je dirais, de la Vulgate, mais enfin, elle n'est pas non plus complètement hégémonique. Et c'est à partir du texte latin qu'on travaille. Quand on lit Thomas d'Aquin, par exemple, il cite le texte en latin. Donc la redécouverte, c'est sans doute un peu excessif, mais enfin, oui, la redécouverte quand même du texte grec et du texte hébraïque au début du XVIe siècle, c'est une petite révolution. Il y a des théologiens qui, elle est même pas petite, elle est très grande, il y a des théologiens qui considèrent qu'on va leur enlever leur gagne-pain. Il y a un des grands adversaires de Luther, par exemple, Jacques Latomus, qui est aussi un grand pourfendeur des humanistes, autant que des réformateurs, parce que, voilà, lui, il travaille à partir du latin. Et puis maintenant, il y a des gens qui viennent lui dire, il faut un autre texte, et c'est le texte grec.
La conséquence, en fait, j'essaie de traduire tous ces commentaires très très poussés que vous nous donnez, c'est qu'on va avoir un texte biblique plus facilement accessible, donc qui tend vers une langue vernaculaire, vers la langue que les gens parlaient, et plus proche de l'original, donc plus près,
oui,
en termes théologiques peut-être,
oui, c'est
de la vérité.
Du reste, ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est absolument pas. C'est l'ambition d'Erasme quand il reprend tous ses manuscrits pour rétablir le texte grec, c'est d'offrir une traduction latine qui ensuite pourra être traduite dans les langues vernaculaires pour que, comme il le dit, chaque paysan qui va au champ puisse le réciter dans sa langue.
Une autre des œuvres de Théodore de Bèze, donc a été aussi une œuvre littéraire, l'adaptation des psaumes.
Voilà.
Et ça, on en parle beaucoup, peut-être parce que ça a eu un impact aussi sur la vie ecclésiale, sur le culte. Pourquoi Théodore de Bèze se lance dans l'adaptation des psaumes et que fait-il exactement ?
Alors, pourquoi d'abord ? C'est parce que Jean Calvin, le réformateur de Genève, et avec une influence énorme dans le monde francophone, notamment en France, lui a demandé, puisque Marot était mort en 1544, sans avoir achevé cette entreprise. Marot n'en a composé que 48. Et Bèze va poursuivre la même entreprise avec les mêmes principes. Les psaumes de la Bible, il y en a 150, ce sont les prières, c'est le livre des prières dans la Bible. C'est de l'hébreu, donc. Et la poésie hébraïque dans la Bible ne connaît pas les couplets. C'est pas une poésie à couplets. Alors que la tradition lyrique, c'est-à-dire du chant poétique au Moyen-Âge et en Occident en général, depuis le Moyen-Âge, c'est la chanson. Et pas toujours, mais très souvent à couplets. Les savants disent à strophe à partir de la Renaissance.
C'est la première adaptation à faire, en fait.
Absolument. Et donc, c'est ce qu'a fait Marot. Il a pris pour chaque couplet ou strophe, un ou deux versets du texte biblique. Alors là, c'est l'art du poète hein, qui doit aménager les choses. Et chaque couplet, chaque strophe est chanté sur la même mélodie. C'est ça, le principe du lyrisme, c'est que c'est fait pour être chanté. Et ça a été mis tout de suite en musique. Et Bèze donc va, à la demande de Calvin, achever les 101 psaumes qui restaient à transformer. Et le deuxième principe, à part les couplets ou les strophes, c'est que à chaque psaume doit correspondre, au moins idéalement, parce qu'en réalité c'était un peu difficile, une mélodie différente, pour que les fidèles puissent facilement mémoriser les paroles. Nous le savons tous, hein, dès que nous avons une petite mélodie dans la tête, les paroles reviennent.
Donc il y avait vraiment un objet pédagogique voilà, aussi et spirituel. Et là, je me tourne vers Pierre-Olivier Leschaud. Quelle était l'intuition de la réforme au niveau du chant, chanter le texte biblique, retenir des mélodies différentes? Pourquoi la réforme est allée vers là?
Il faut déjà, je pense, retourner à ce que dit Luther du chant. Je pense que là, on est dans la même veine, c'est-à-dire que pour Luther, le chant, c'est ce qui, par excellence, rapproche l'âme de Dieu. Il y a une dimension quasi divine, je dirais, chez Luther, dans la vision du chant, qui va d'ailleurs se poursuivre ensuite dans toute la tradition luthérienne, avec jusqu'à Jean-Sébastien Bach, où on théorise cet art du chant comme étant un outil pédagogique. Hein. Il y a une dimension pédagogique du chant, non seulement, je dirais, théologique au sens d'apprentissage d'une doctrine. Hein. Chanter, ça permet de mieux mémoriser quelque chose, etc. Mais aussi parce que le chant, c'est ce qui rapproche le plus de Dieu, parce que ça permet aussi de réveiller les passions profondes de l'âme. Ça, c'est le point de départ.
Et pour finir, alors sur ce sujet de l'adaptation des psaumes par Théodore de Bèze, Olivier Millier, je vous propose de nous faire écouter un psaume que vous avez sélectionné.
Le psaume 47, les vers sont assez brefs et ça permet une musique dynamique, très vive. Et justement, c'est un chant d'acclamation très joyeux et cosmique. Et
nous écoutons maintenant le psaume 47, écrit par Théodore de Bèze, adapté par Théodore de Bèze. Pierre-Olivier Leschaud, maintenant, dernière partie de cette émission, un sujet plus théologique. Quelle était la vision de Théodore de Bèze sur l'être humain?
Ben, c'est une vision que j'aurais envie de qualifier de paradoxale. C'est-à-dire que pour Théodore de Bèze, comme pour l'ensemble des réformateurs, l'être humain, si on le prend dans son état, disons, naturel, c'est l'être humain pécheur. C'est le point de départ.
Quand on dit l'être humain pécheur, parfois le mot peut être un peu trop codé. Qu'est-ce qu'on entend précisément?
Eh bien, c'est le fait que l'homme, naturellement, l'être humain, naturellement, entre guillemets, est révolté contre son Dieu. La racine du péché, pour Luther, comme pour Calvin dans l'institution et comme pour Théodore de Bèze, c'est l'orgueil, c'est-à-dire la haine de Dieu, la volonté de se mettre, entre guillemets, à la place de Dieu. Pour les réformateurs, et Théodore de Bèze est dans cette veine, l'être humain ne peut rien par lui-même parce qu'il est prisonnier, il est captif de son péché.
On pourrait dire que Théodore de Bèze a une vision très pessimiste de l'être humain.
C'est un pessimisme anthropologique, pour employer des gros mots. Oui, absolument. Le péché, c'est la définition de l'être humain dans ce qu'il est.
Dans sa racine,
le péché radical, comme dit Luther, n'est-ce pas? Tout à fait. Et dans sa racine, l'être humain est mauvais. Alors, dans sa racine, c'est pour ça que je disais paradoxal, il faut peut-être quand même ajouter cette petite nuance, c'est que chez Calvin, il y a cette distinction quand même, à savoir que l'être humain est naturellement pécheur parce que le péché est advenu, Adam et Ève, etc., mais il a été créé bon. Et Calvin peut dire parfois, comme Rousseau plus tard, mais il y a une grande différence bien sûr, que l'être humain, dans sa destination première, est bon. Et qu'au fond, le projet de Dieu, c'est de ramener l'être humain, ou certains êtres humains en tout cas, à cette destination première.
Il y a un ouvrage de Théodore de Bèze où peut-être que cette vision de l'homme pécheur, de l'homme mauvais dans son être, s'exprime particulièrement et que vous avez étudié.
Oui, alors c'est un texte qu'on connaît, que les spécialistes connaissent, mais je trouve qu'il n'est pas assez lu, ce sont les Chrétiennes Méditations. C'est un texte qui est rédigé dans cette période extraordinairement productive de Théodore de Bèze, quand il traduit les psaumes, quand il les adapte, quand il écrit aussi son Abraham sacrifiant et tant, et qui commence son travail sur le Nouveau Testament, donc ça date de cette époque, mais c'est un travail qu'il va reprendre à plusieurs étapes de son existence et qu'il va finir par publier dans les années 1580. Et il fait ce que Luther a fait, c'est-à-dire de commenter les psaumes dits de pénitence, c'est-à-dire ces sept psaumes où, au fond, David, l'auteur supposé des psaumes, se repent, au fond. Et la tradition, elle est ancienne, hein, méditer les psaumes de pénitence, méditer l'écriture, c'est une tradition ancienne. Augustin, dont on a déjà parlé, le faisait, mais d'autres aussi au Moyen-Âge. Mais ce travail de Théodore de Bèze sur ces psaumes de pénitence a ceci de particulier qu'il est bien sûr investi par la théologie de la Réforme. Et donc, ce qu'on a au Moyen-Âge dans la méditation, c'est ce qu'on appelle la scala, hein, c'est-à-dire la méditation, elle permet par étapes comme ça de se rapprocher de Dieu. Théologiquement, dans les Chrétiennes Méditations, ce dont on parle, c'est de Dieu qui s'approche.
Olivier Millet, vous avez pu voir, lire des extraits des Chrétiennes Méditations. Quel est le style littéraire?
Alors, pour le littéraire que je suis, le plus frappant, je ne parle pas du contenu théologique et spirituel que Pierre-Olivier Leschaud vient d'indiquer, mais le plus frappant, c'est que Bèze invente, même si il existait des méditations au Moyen-Âge en français, elles étaient très souvent d'ailleurs démarquées du latin en réalité, mais il invente ce genre de la méditation en français sur un texte biblique, notamment sur les psaumes, comme une forme en quelque sorte, avec le jeu de la première personne et de la personne biblique qui parle, avec une prose à la fois compréhensible mais très savante, très concertée, avec des phrases qui ont un rythme, etc. Et Bèze est un grand inventeur de genre littéraire en français.
Alors, Pierre-Olivier Leschaud, du coup, on a envie maintenant d'entendre un extrait de ces Chrétiennes Méditations. Est-ce que vous pourriez nous en partager un?
Oui, c'est un passage tout à fait intéressant parce que c'est Bèze qui contemple David contemplant son péché après l'épisode de Bethsabée et donc d'Uri. Et dans ce passage, ce qui est fascinant, c'est que le jeu de l'observateur, Théodore de Bèze, devient le jeu de David et finalement celui du lecteur. Donc il y a comme ça une espèce de fusion des horizons du lecteur et de ses personnages et de l'auteur. Je vois de mes yeux, ce me semble, cette pauvre femme se baignir encore. Je vois David, contristant ton esprit, résistant à sa conscience, recevoir ton ennemi et le sien et se rendre volontairement captif à lui. Je vois le lit souillé et infect où j'ai embrassé le péché et la mort. Je te vois, cœur déloyal et meurtrier. Je te vois, main traîtresse, par qui ces deux lettres meurtrières ont été écrites et à diverses fois non point d'encre, mais du sang de ce pauvre serviteur innocent. Je te vois, pauvre peuple, pour lequel je devais exposer ma vie, exposée par exprès au glaive de l'ennemi. Je te vois, ô loyal serviteur, renversé par terre, baigné en ton sang répandu pour le service de celui qui te livre à la mort.
On sent, quand on entend ce texte, un rapport, et on finira d'ailleurs là-dessus sur les Chrétiennes Méditations, un rapport très authentique de Théodore de Bèze avec Dieu, avec son péché, Qu'est-ce qu'il a voulu transmettre et comment ça peut, si j'ose une actualisation, parler aujourd'hui à l'homme contemporain, ce rapport très vrai, très authentique?
Moi, ce qui me frappe, c'est au fond la liberté qu'il s'autorise, parce que bon, c'est le père de l'orthodoxie calviniste, tout ce qu'on voudra, mais il s'autorise une liberté de création à partir du texte biblique qui, moi, m'a fasciné. C'est-à-dire que le texte biblique, pour qu'il devienne parole de Dieu, et cette distinction est fondamentale, ben, il faut pas le prendre comme un objet mort, une lettre, mais il faut y trouver l'esprit. Et c'est ce que fait Théodore de Bèze. Au fond, comme un bon chef d'orchestre, il va interpréter la partition, il va pas seulement la jouer note à note, il va l'habiter. C'est sa façon de l'habiter. Elle est peut-être contestable, elle est certainement contestable pour un lecteur des psaumes d'aujourd'hui, mais cette façon qu'il a de l'habiter, si je puis me permettre d'être personnel un peu plus, moi, elle me parle. C'est un texte qui m'a touché, pour être tout à fait honnête.
Cette répétition, Olivier Millet, je te vois. C'est un appel à l'imagination, et c'est ce que Pierre-Olivier Léchaud vient de dire. C'est-à-dire que le lecteur est invité à mettre en route sa propre imagination.
Et ça marche.
Pour s'approprier le sens du texte biblique. Mmh. Voilà.
Eh bien, merci messieurs. On finit donc sur vos commentaires passionnés et passionnants sur ce texte et cet extrait des Chrétiennes Méditations de Théodore de Bèze. J'étais en compagnie d'Olivier Millet, professeur de littérature moderne à la Sorbonne, et je signale votre publication « Une histoire personnelle de la Bible », qui est votre présentation de la Bible chez les presses universitaires françaises, et en audio aussi chez Frémont Éditions. Merci pour votre présence. Merci également à Pierre-Olivier Léchaud, professeur d'histoire moderne à l'Institut protestant de théologie à Paris. Vous avez publié également chez les presses universitaires françaises un « Que sais-je » sur l'histoire de la Réforme. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, un ouvrage de référence que vous allez nous présenter, Pierre-Olivier Léchaud, également brièvement.
Oui, parce qu'on ne pouvait pas, à mon sens, parler de Théodore de Bèze sans parler de celui qui a été son grand spécialiste et qui nous a quittés il y a de ça un peu moins de 2 ans et que Olivier et moi avons bien connu. C'est Alain Dufour. Alain Dufour, qui a été pendant de très nombreuses années directeur de la maison d'édition Drault à Genève et qui a passé sa vie, on peut le dire comme ça, hein, je crois, à éditer la correspondance de Théodore de Bèze.
Et on peut signaler donc sa
livre,
publication.
Oui, qui était paru donc en 2006 en édition grand format, Théodore de Bèze, poète et théologien, mais qui est paru en poche maintenant chez Drault aussi.
Un grand merci aux équipes de Radio France, Laurent Lucas et François Rivalan, ingénieurs du son. Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Benjamin Bories. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestantpluriel.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant « Service protestant ». Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivi à 9h10 de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. J'aurai le plaisir de vous retrouver le vendredi 1er novembre à 9h30 pour une émission spéciale sur le deuil à l'occasion de la Toussaint. Dieu pleure avec ceux qui pleurent, mais il se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Passez une bonne journée sur France Culture.